Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas.
Pas de tricheur dans l'équipe, tout le monde se donne à fond et surtout on est bien quadrillé par le coach aussi.
Si j'aurais marqué mes deux pénaux aussi, je serais le meilleur buteur déjà. Avec des si, comme je l'ai dit l'autre fois, je serais au Real.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Walid Acharchour et de Jonathan McCardy avec vous sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio et au 32-16, bien entendu. On a fait une grosse page Alexis Sanchez qui a été présenté aujourd'hui en tant que nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. Olivier Létang, il était l'invité de BFM Lille aujourd'hui. On l'a écouté avec Jean Baumel il y a quelques instants. Tout cela retrouvé bien sûr sur rmcsport.fr. On va faire du Monaco dans quelques instants qui a été sorti hier en tour préliminaire de Ligue des Champions. Mais avant cela, ça vient de démarrer entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort, ça se passe au stade olympique d'Helsinki en Finlande. Super Coupe d'Europe qu'on va suivre, qu'on va vivre avec Clément Brossard. Salut Clément.
Salut Nico, salut Jonathan, salut Walid, salut à toutes et à tous.
Salut Nico.
0-0 hein, après une minute de jeu entre le Real et l'Eintracht. Copier-coller hein, le 11 de Carlo Ancelotti par rapport à ce qu'on avait vu en finale de Ligue des Champions. Hein.
Exactement, ce sont d'ailleurs les mots du coach italien. Remettre ceux qui ont gagné cette Ligue des Champions face à Liverpool au Stade de France. Et donc le 11 est le même avec Thibaut Courtois dans la cage, Ferland Mendy sur le côté gauche, Daniel Carvara à la droite, la charnière composée d'Alaba et de Militao, Casemiro, Kroos et Modric dans l'entrejeu, Vinicius sur le côté gauche, à droite Federico Valverde et puis devant Karim Benzema qui pourrait aujourd'hui en cas de but eh bien dépasser Raoul et devenir le deuxième meilleur buteur seul de l'histoire du Real Madrid et pourrait aussi soulever son premier trophée en tant que capitaine du Real. On a quasiment fait la même chose du côté de l'Eintracht Francfort, les hommes de Olivier Glasner qui seront quasiment les mêmes que ceux qui ont remporté la Ligue Europa face aux Rangers. Il y a quelques petits ajustements tout de même puisque il y a un joueur qui est parti ou notamment qui est en instance de transfert pour rejoindre la Juventus, il s'agit de Philippe Kostic remplacé par Jasper Lindstrom au milieu de terrain, mais sinon Kevin Trapp est bien là, le français Van Ndicka est bien là, mais l'information aussi côté Francfort c'est que Randal Kolo Muani, l'ancien Nantais, est sur le banc de touche au départ de cette rencontre, lui qui a marqué face au Bayern le week-end dernier lors de cette première journée de Bundesliga.
Ouais, il a fait une bonne entrée, c'est bizarre qu'il soit sur le banc.
Le micro est ouvert, hein, Clément, bien sûr, s'il se passe quelque chose entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort dans cette Super Coupe d'Europe. Et bien l'Europe, on y est justement, et vous étiez peut-être, on l'espère en tout cas avec nous hier soir sur RMC, pour vivre le troisième tour préliminaire retour de Ligue des Champions de Monaco. L'ASM était à Eindhoven pour y affronter le PSV. Philippe Clément se voyait favori, mais...
Pour moi, mentalement, nous sommes le favori. Parce que je suis certain que physiquement, nous sommes meilleurs. Mais on doit prouver sur le terrain.
Ça revient sur Capagnata, le ballon. Benitez qui est mal sorti. Marifan, le ballon.
Marifan,
le but. Voilà. L'égalisation. Et Marifan qui profite du cafouillage. Et l'égalisation de l'AS Monaco. La vitesse de Gelson Martins. Gelson Martins qui va rentrer dans les 30 derniers mètres. Le centre au deuxième poteau pour Bayadès.
Et le but.
Voilà. À 20 minutes de la fin de ce match retour, l'AS Monaco a renversé la situation.
Dans Carlier, dans score, notre petit Gutiérrez met het 2-2.
Deze is goed, de kop al daar, het doelpunt aan Luc de Jong. Luc de Jong, 3-2.
C'est terminé, l'AS Monaco, c'était à 2 minutes près d'avoir ce ticket pour le barrage. Ils ont cédé à la 88e et ils ont cédé en prolongation sur Luc de Jong.
Ça, c'est les choses cruelles de foot, qu'on a dominé les deux matchs. Les deux matchs, nous avons eu plus des occasions que PSV.
Prod signé de notre réalisatrice Suzanne Fauny avec les mots de Philippe Clément, l'entraîneur de l'ASM d'avant et d'après match. Et alors Walid, toi t'as un avis tranché ce soir qui concerne l'ASM, tu considères qu'on est trop gentil avec Monaco, hein, ouais. Qui a été sorti une fois de plus en tour préliminaire de Ligue des Champions.
Hein. Ouais, je trouve qu'on est très gentil avec Monaco dans nos analyses, dans ce qu'il en découle, sur la pression qu'on met à un club comme Monaco par rapport à ce qu'ils sont dans ce championnat. Pour moi, Monaco doit être une locomotive en Europe derrière le Paris Saint-Germain. Et quand on conjugue les deux dernières campagnes en Ligue des Champions avec la dernière de Jardim où ils terminent quatrième dans le groupe de Leipzig, Porto, celle où ils envoient la Youth League avec Thierry Henry où ils terminent encore quatrième et les deux barrages contre le Shakhtar, contre le PSV et entre-temps le huitième de finale en Europa League contre Braga. il y a 4-5 mois où c'était jugé comme un très très bon tirage en 8e d'Europa League, et ils se sont fait sortir de façon assez triste. En fait, pour moi, on est très très loin du compte côté Monaco, et je trouve qu'on le dit pas assez par rapport au standing de ce club en Ligue 1, par rapport aux investissements, par rapport au talent aussi des joueurs et de l'équipe. Et moi, je trouve que ça symbolise un peu les 3-4 dernières années en termes de gestion, l'instabilité des coachs. On pourrait faire une mort subite avec Jonathan du nombre de coachs qui sont passés sur les 4-5 dernières années. Le manque de recrutement au poste clé, parce que encore une fois hier, moi je suis désolé, mais
il y a eu Jardim, il y a eu notre ami Kovac,
Moreno, retour de Jardim, ça fait quand même beaucoup. On en avait parlé l'année dernière du changement de Kovac. Il y avait beaucoup de débats sur est-ce qu'il fallait changer ou pas. Voilà, au-delà des coachs, il y a aussi les secteurs clés, parce que moi je suis désolé, mais les causes produisent les mêmes effets. On avait dit l'année dernière que défensivement, en Europe, il fallait un défenseur de haut niveau à Monaco, qu'il fallait se renforcer. L'année dernière, ça n'avait pas suffi, ni contre Braga, ni contre le Shakhtar. On repart avec à peu près la même charnière centrale, Maripane, Badiachil.
Walid, la défense centrale, c'est un problème à Monaco depuis l'année du titre.
Exactement.
Deux joueurs qui ont fait des saisons énormes.
D'ailleurs, Malang Sarr a été officialisé aujourd'hui.
Ouais, aujourd'hui,
avec
Glick et Jemerson, qui avaient fait une saison qu'ils n'ont pas refait depuis, mais depuis, ce poste-là, c'est un vrai souci, et ils l'ont pas résolu, et c'est
problématique. Malang Sarr qui vient d'être officialisé,
c'est quand même assez fou. Moi, je me suis fait la même réflexion en disant c'est con, à 24 heures près, on réalise bien.
Exactement. Tchouaméni, qui est quand même aujourd'hui international français, qui est sur le banc du Real Madrid, qui a été vendu pour 120 millions d'euros, n'a pas été remplacé. Quand on voit le match de Fofana, et à côté, malheureusement, il est esselé parce que le petit Matazo, il est pas prêt, parce que Jean-Lucas, quand tu as la solution Jean-Lucas pour rentrer sur une prolongation, pour jouer ton avenir de la saison, je suis désolé, moi, pour un club comme Monaco, c'est pas suffisant. La question du gardien, ça fait quand même 2 ans qu'on en parle, 2 ans et demi, on dit que c'est léger. Sur ce genre de rencontre, où dans les deux surfaces, tu as besoin d'avoir des arrêts, un côté décisif, je suis désolé, moi, encore une fois, je trouve que ce problème-là n'a pas été réglé. Et en fait, j'ai l'impression aussi que dans ce contexte un petit peu à Monaco, où il n'y a pas de pression, où tout le monde est un peu gentil, tout le monde est un peu sympa, que les joueurs...
Oui, mais ça les a pas empêchés de gagner le titre il n'y a pas si longtemps que ça, finalement.
Bah oui, mais ça commence à remonter. Nico,
ouais.
Ça fait quand même 3-4 ans.
Walid, ça peut pas être juste le contexte, parce que avec ce même contexte, Nico a dit, ils ont été champions.
Depuis, attendez, si vous voulez, on peut parler de 2004. Si vous voulez, on peut parler de ce que vous voulez.
Ce que je veux dire par là, c'est que le contexte, quand ils gagnent, c'est le même, finalement.
Oui, non, mais je trouve qu'il y avait un peu plus de pression, mais il y avait en tout cas, peut-être, un effectif beaucoup plus concerné à l'époque. Avec des tauliers.
Ah oui.
Et là, aujourd'hui, quand je vois, par exemple, Golovin, depuis qu'il arrive à Monaco, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais c'est les montagnes russes, excusez-moi du jeu de mots. Quand on voit Volante, depuis un an et demi, il avait fait une belle première saison. Depuis, quand tu vois sa double confrontation, déjà l'année dernière, contre Shakhtar, ça avait été problématique. Là, c'est la même chose. Voilà, je trouve que il y a pas ce côté, un peu comme à l'OL, un peu comme à Marseille, un peu de pression, où tu peux avoir des joueurs qui, traverse des saisons qui ont été achetées quand même pour beaucoup d'argent, et je trouve que même nous dans nos analyses on est plutôt Monaco, ils se font sortir contre le Shakhtar, contre le PSV, contre Braga, c'est pas si grave que ça. Et puis de toute façon, juste pour terminer Jonathan, et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, et ça je n'impute pas que à Monaco, mais si on rate 3 mois dans l'année, on va quand même faire podium, parce que si on se met à l'endroit pendant un mois et demi, on fera une série et tout ira bien. Et je trouve que vraiment ce contexte à Monaco, que ça soit en haut, dans le board, chez les observateurs et les joueurs, je trouve qu'aujourd'hui, on est trop gentil.
Et si le problème...
On vous attend un supporter de l'ASM au 32-16.
Et si le problème de Monaco, c'était pas Damien Perrinel?
Bien sûr. Depuis qu'il est là-bas, tout fout le camp.
En fait, Walid, t'as tout dit, mais je pense qu'il faut ajouter une chose, c'est que quand on a parlé des équipes de Monaco qui gagnent, on pourrait revenir à celle de Deschamps, c'est que à chaque fois, t'as un entraîneur qui fait que le contexte un petit peu feutré, tranquille, sans pression, n'existe pas. Des entraîneurs comme Deschamps et Jardim qui sont capables de coller la pression aux joueurs 24 heures sur 24. Et ça, c'est quand même hyper important.
Là, je te dis pas qu'il a voulu le faire. Au bout de 6 mois, au bout d'un an et demi, il a sauté parce que le vestiaire ne répondait plus.
Je te dis pas que Clément n'est pas capable de le faire, mais en tout cas, pour l'instant, je demande à voir. Après, le vrai problème de Monaco, c'est bizarre de dire ça, mais c'est leur budget. C'est-à-dire qu'ils ont le budget pour se permettre de faire des saisons où tu n'es pas forcément qualifié directement pour les Ligues des Champions.
Ils ont le budget. On devrait voir le truc à l'envers.
Ils ont le budget. Ils ont pas, tu vois, cette espèce d'urgence financière qu'a par exemple l'Olympique de Marseille. Ouais. Tu sais que si t'es Marseille, si tu te qualifies pas directement en Ligue des Champions, c'est un désastre pour le prochain mercato.
Mais pour notre championnat, c'est un désastre.
Après, c'est que la pression aussi populaire fait que c'est la grosse différence. Quand t'es le quatrième budget de Ligue 1 comme les Monaco aujourd'hui, si c'est Marseille, les supporters vont se dire attends, on a le quatrième budget, gars, on n'y va pas.
C'est que de dire que Monaco c'est le quatrième budget, ça veut rien dire parce que t'as aussi les avantages fiscaux.
Bah, d'autant plus alors.
Dans les faits, c'est le deuxième budget de Ligue 1.
Bah, d'autant plus.
Mais ils ont tellement d'argent qu'en fait, ils ne dépendent pas des résultats. Contrairement à un club comme Lyon qui est coté en bourse, contrairement à un club comme Marseille qui marche sur des œufs avec ses finances. Et je dirais pas que c'est une malédiction d'être serein financièrement, mais dans ce cas-là précis, ça ne les aide pas. Et la deuxième des choses, c'est que concrètement. Alors, c'est lié à ce que je viens de dire, hein, sur cette sécurité financière qui les empêche de se transcender, mais moi, je sais pas quels sont les objectifs de Monaco en début de saison. Est-ce que c'est de se positionner clairement comme un vrai rival pour le PSG?
Non, mais c'est Ligue
Est-ce
des Champions.
Est-ce que c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions?
Bah, oui.
Mais c'est jamais vraiment très clair. Et juste pour finir, Nico, moi, ce qui m'embête, c'est que le board monégasque ne raconte aucune histoire. La construction du club, dans ce que tu veux faire, dans la création de l'aventure autour de ton club, ce board-là ne raconte rien. Si ce n'est cette histoire de on est un club dans une jolie région de France avec de l'argent. C'est quand même un peu
triste. Bah tiens, tu sais quoi, sur les objectifs de Monaco, Philippe Clément, après l'élimination d'hier hein, face au PSV, il a un petit peu expliqué ce qu'étaient les objectifs de Monaco en disant qu'il fallait absolument que l'équipe se remette la tête à l'endroit.
Le plus important reste maintenant la réaction. L'équipe, les joueurs, ils doivent prendre les leçons que l'année passée parce que la déception a resté trop longtemps dans la vestiaire. À cause de ça, ils ont manqué trop de points dans le championnat. Et à la fin, le club a manqué la Ligue des Champions. On ne peut pas faire cette erreur la deuxième fois.
Voilà, tu vois. Donc, en gros, l'objectif, c'est la Ligue des Champions.
Bien entendu. Mais on l'a vu quand Kovac est parti.
Oui. Parce qu'il y avait. Il se fait virer à cause de ça.
Parce qu'il voulait une équipe un peu plus spectaculaire, parce qu'il voulait aller chercher notamment cette deuxième place. Et malheureusement, moi, je suis désolé, mais ce que dit Jonathan, moi, je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas ce raisonnement. Parce qu'ils ont de l'argent. Parce que ils peuvent entre guillemets se passer de la Ligue des Champions.
Je comprends ce qu'il veut dire. Donc ça va dans le sens de ce que tu dis toi.
C'est bien.
Du fait, je pense que vous avez
juste leur manière de penser.
Vous dites à peu près la même chose, mais de façon un peu différente. C'est-à-dire que toi, tu dis il y a pas de pression, donc ça, en gros, ça les booste pas. Et il te dit le fait qu'il y ait pas de pression, mais qu'ils aient de l'oseille, ils peuvent se permettre finalement de faire un faux pas.
Mais c'est dramatique.
Mais ça fait quand même beaucoup de faux pas. Et puis surtout,
j'ai pas pris
que le Shakhtar et j'ai pas pris que le PSV. Je répète, mais les deux dernières. C'est quatrième sur les deux dernières campagnes de Ligue des Champions. Si c'est l'OM ou si c'est Lyon, c'est pas du tout la même chose.
C'est zéro point sur les deux dernières phases de groupe de Ligue des Champions.
Je crois que c'est un ou deux, mais c'est quatrième place.
Zéro victoire.
Mais c'est un point et deux points. Ouais. Quand on regarde Braga, huitième de finale d'Europa League, tu joues Braga à l'aller et au retour. Tu ne gagnes pas un match. Mais Monaco aujourd'hui sur l'indice UEFA du championnat de France. Mais c'est problématique pour notre championnat, je sais pas. Ça dérange personne.
Pour le ranking UEFA, c'est pas bon, surtout que c'est les Néerlandais.
Le problème, Walid, c'est que dans ce club-là, il y a aucune pression, que ce soit populaire ni financière, et que on est un peu perdu quand on est supporter de Monaco. Et je le maintiens, je pense que même les propriétaires monégasques ne savent pas ce qu'ils veulent faire de ce club-là. Alors, ils sont intrinsèquement dans les places européennes parce qu'ils ont de l'argent et qu'ils achètent des bons joueurs. Mais si j'aimerais bien avoir une interview d'un dirigeant monégasque qui nous explique quel est le projet sur le moyen terme de ce club-là. Et j'ai vraiment du mal à savoir. Tu vois, par exemple, Olas et Textor nous ont expliqué ce qu'il va faire sur le moyen terme. Marseille, il y a un projet.
Michel a expliqué. Je pense que Michel a expliqué.
Et c'est quoi alors?
Il veut être Ligue des Champions tous les ans. Il veut valoriser les joueurs. Il veut faire ce que Campos faisait.
C'est Marseille, sauf que l'on parle moins, mais c'est la même
chose. Le projet marseillais, il est quand même un peu plus étayé. Il est un peu plus étayé sur quelles sont les ambitions.
Normalement, Monaco devrait avoir beaucoup plus de certitude que Marseille.
Et les gars, on fait une pause. On revient dans quelques instants, les gars, avec notamment Adrien, supporter de Monaco qui ne sait pas au 32-16. On va aller faire un petit détour dans quelques instants avec Clément Brossard du côté d'Helsinki. Super Coupe d'Europe entre le Real et l'Eintracht 0-0. On approche du quart d'heure de jeu. À tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
Avec Walid Acharchour, Jonathan Macardy, 21h17, vous êtes sur RMC dans l'After, on est ensemble jusqu'à minuit comme chaque soir. Bien entendu, il y a la Super Coupe d'Europe ce soir entre le vainqueur de la Ligue des Champions, le Real Madrid, et celui de l'Europa League, l'Eintracht Francfort. On vit ça avec Clément Brossard. Clément, il y a déjà une occasion partout et dont une à l'instant même pour le Real. Grosse occasion pour Vinicius Junior.
Énorme occasion, c'est vrai, après 17 minutes de jeu pour le Real dans ce stade olympique d'Helsinki, avec un bon débordement d'abord de la part de Federico Valverde qui trouve Karim Benzema dans la surface de réparation, la vista de l'international français pour trouver Vinicius et prolonger ce ballon, et puis la frappe du Brésilien qui tombe sur Tuta, son compatriote, le défenseur central de Francfort, qui sauve ce ballon juste devant sa ligne. Avant cela, il y avait une première occasion également pour Francfort après une perte de balle de Ferland Mendy, et c'est finalement le japonais Daiki Kamada qui s'est présenté face à Thibaut Courtois qui s'est bien couché, et puis un autre avertissement avec ce joueur danois Jasper Lindstrom de Francfort qui est parti au but à la limite du hors-jeu, et le drapeau s'est levé. D'ailleurs, concernant les hors-jeux, il y a une petite nouveauté ce soir qui aura la présence aussi, qui sera présente du moins pendant la Coupe du Monde et également lors de la prochaine campagne de Ligue des Champions, c'est le hors-jeu semi-automatique. Pour vous expliquer très rapidement, il y a des caméras qui sont présente au stade, 12 caméras qui surveillent les déplacements des joueurs et du ballon. Ça permet de faciliter la détection des hors-jeux et d'accélérer un petit peu la prise de décision. 29 points corporels différents par joueur. Voilà ce qui pourrait aider encore un peu plus les arbitres avant de prendre la bonne décision. 0-0 dans cette Super Coupe d'Europe après 18 minutes de jeu.
Voilà, et tu interviens dès qu'il se passe quelque chose, mon cher Clément. Nous, on était du côté de Monaco. Monaco qui ne sera pas en Ligue des Champions cette saison. Qualifié directement pour la phase de groupe d'Europa League, puisqu'ils ont disputé ce troisième tour préliminaire en qualité d'équipe passant par la voie de la Ligue, comme on l'appelle. Et du coup, Monaco qui ne sera pas en Ligue des Champions. Et il y a Adrien, supporter de l'ASM, qui nous appelle au 32-16. Salut Adrien.
Salut à tout le monde.
Salut Adrien.
Alors Adrien, est-ce que tu es d'accord avec Walid qui dit on est trop gentil finalement avec Monaco qui se fait sortir encore une fois avant d'atteindre la phase de groupe de Ligue des Champions?
Alors Walid, je ne peux que être d'accord avec lui parce que je suis dégoûté.
Alors au bout de ta vie là,
je peux comprendre. Non, mais je peux comprendre parce qu'avec ridicule. La qualité qu'il a.
Non mais ils sont ridicules, ils ont été ridicules hier.
Ouais, ils n'ont pas été mauvais, cela dit, Adrien, sur les deux matchs en plus.
Non, vraiment, ils ont été mauvais. Quand tu joues 10 minutes sur 2x90, avec les prolongations, puisqu'ils ont été jusqu'aux prolongations, le match, on doit le plier.
Les intentions étaient là, les occasions étaient là.
Non, mais en fait, déjà, je suis désolé, mais quand on a un gardien, un plot, déjà, c'est compliqué de pouvoir prétendre à une victoire. Ce type, le futur Neuer, mais arrêtez. Il a rien de meilleur par la nationalité. Enfin, il est ridicule à souhait. Il sert à rien. On a des défenseurs, franchement, des super attaquants. Ah, ils savent marquer. Par contre, ils savent pas défendre. C'est dommage parce que c'était à la base pour ça qu'on les appelait défenseurs. Enfin, c'était pour défendre. Et puis en attaque, c'est mignon. Ça joue à la baballe et ça revient en retrait. Et puis ça, à un moment donné, je sais pas, quand on a des
morts de faim,
comme le petit Mbolo, comme le petit Diop, comme qui envoie, qui casse les défenses. On va mettre un Voland, il est gentil Voland, mais il joue un match sur 5. Ben Yedder, c'est notre meilleur joueur, hein, notre meilleur attaquant, mais bon, jouer tout seul, ça a jamais fait une équipe. Il manque la Grinta. En fait, à Monaco, on a un excellent centre de formation, les plus grands joueurs et les plus grands attaquants de France. Hein. On va passer par les Trezeguet, les Henry, les Mbappé, tous les plus grands attaquants. Tous les sont sortis de la centre de formation de Monaco et on n'est pas fichu de faire quelque chose de correct. Moi, c'est simple, je suis partagé entre j'arrête de les supporter cette saison, je fais une pause et puis stop. Ou s'il vous plaît, faites juste honneur aux supporters parce que on dit qu'il y a pas beaucoup de supporters à Monaco. On est nombreux. Regardez tous les stades à l'extérieur, on fait partie des publics les plus nombreux. Il y a énormément de supporters. Juste faites-nous plaisir. Et aller nous chercher la Ligue Europa.
Mais c'est ça.
Juste ça. Oui.
Mais aujourd'hui, je sais même pas si.
Numéro 1 du club.
Je sais même pas si Monaco a cette envie-là. Quand je parle de Monaco, c'est tout le club. S'il y a cette réelle ambition, parce qu'avec l'effectif qu'ils ont, moi, je suis désolé. Bon, bien entendu que pour moi, bon, ils ont fait un bon recrutement avec Brel Mbolo, qui, je pense, moi, va se régaler en Ligue 1. Minamino, on va voir s'il est un peu mieux utilisé.
Pour l'instant, c'est compliqué. Ouais, c'est tout début. Hein.
Voilà, c'est compliqué. Mais moi, en fait, le problème avec Monaco, ce qui me frustre, c'est qu'en Ligue 1,
je le disais tout à l'heure, Nico, ils vont jouer un mois et demi dans la saison, ça va leur suffire pour être tout là-haut. Sauf que dès qu'ils arrivent en Europe et qu'il y a un petit peu d'adversité, et là on parle plus des très grandes équipes européennes, hein. Là on parle du Shakhtar qui l'année dernière, après la qualification, avait terminé quand même quatrième de leur poule derrière le Sheriff Tiraspol. Là on parle du PSV Eindhoven. Moi je suis désolé, mais le PSV sur la double confrontation ne m'a pas impressionné du tout.
On l'a dit hier pendant le live, hein. Le PSV, ils ont perdu 4 de 5 de leurs meilleurs buteurs de la saison dernière.
Exactement. Hein, et moi c'est ça qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui le gap entre Monaco qui sur une jambe presque peut faire le podium en Ligue 1, mais dès qu'ils arrivent face à des équipes européennes de bonne facture, hein, bien entendu, mais c'est pas le gratin. Bah, il y a comment dire, fois ils sont.
Alors, parce que vous ignorez le fond du problème.
À chaque fois ils sont
du problème. Il est devant nos yeux et on l'a pas dit depuis le début. C'est simplement que mis à part le Paris Saint-Germain, il faut qu'on arrête de penser que nos top clubs de Ligue 1, parce que Monaco c'est un top club de Ligue 1, on fait partie de la première division européenne. Les top clubs de Ligue 1 ne font pas partie de la première division européenne et peut-être même pas de la seconde.
C'est juste qualifié pour la phase de groupe de Ligue des Champions.
C'est ce que je te dis. On ne fait pas partie de la première division européenne et encore moins et de la seconde, j'en suis pas sûr. Et quand on voit les résultats qu'on a eu récemment contre les clubs néerlandais, quand on voit notre historique face aux clubs portugais, moi j'ai l'impression qu'on fait plus partie d'une troisième division. Et quand on dit que Monaco doit se donner pour objectif de gagner l'Europa League. Moi, je suis d'accord, ça serait un super objectif, mais on va pas rêver. Hein. Monaco peuvent avoir autant d'argent qu'ils veulent. L'argent n'est pas assez bien dépensé pour être en mesure de gagner cette Europa League. Et je pense qu'encore une fois, on est dans un problème de gestion du budget. Hein, on est dans un problème de gestion des clubs, dans un problème de où vont chercher nos scouts, qu'est-ce que font nos scouts, quel genre de joueurs on va.
Mais oui, comment c'est possible que tu joues avec Matazo à côté de Fofana sur un match
quand t'as 250 millions d'euros de budget, ce n'est pas possible. Et c'est simplement que tu travailles mal.
Adrien, vas-y Adrien.
Alors justement, je vais rebondir là-dessus parce que c'est excellent ce que vous êtes en train de dire. À un moment donné, je suis désolé, Matazo, il est mignon, il a fait un match et demi la saison dernière de bien. Le reste, je comprends pas ce qu'il fout là.
C'est pas contre lui, hein, mais.
Non,
il a 20 ans, Matazo, il est jeune.
Il y en a beaucoup. Je suis désolé, mais Jean Lucas, là.
c'est une énigme.
Lucas Todd là, parce que il est inutile. Il fait. Franchement, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut avoir aucune mouette qui vient se poser sur le stade. Il fait que des tirs en l'air. Franchement, un excellent rugbyman. Il est exceptionnel, ce gars-là.
Ouais. En plus, des mouettes à Monaco, c'est pas trop ça.
Non,
quoi,
on est d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je suis désolé, mais là, il y a un match Real Madrid-Francfort. Je suis désolé, Francfort, franchement, et presque au niveau du Real, ils font un excellent match. Francfort, on parle de Francfort. Vous allez me dire que peut-être que Francfort,
qui a gagné la Bundesliga,
est plus mauvais que Monaco.
Mais Francfort, ils bouffent tous les clubs de Ligue 1, à part le PSG, sur une double confrontation. Hein. Faut quand même regarder les choses en face.
C'est pas normal. Mais si c'est le cas,
c'est pas normal. Mais là, on parle de nos clubs dont la seule politique sportive, c'est de faire de l'argent. On parle de nos clubs qui sont incapables d'ouvrir, d'enlever leurs œillères quand il s'agit de recrutement. Et quand tu vois Monaco, 250 millions d'euros de budget, je te rejoins Walid, c'est pas possible. C'est pas possible de ne pas être en Ligue des Champions. C'est pas possible d'avoir un effectif de cette qualité-là. Parce qu'attention, c'est un effectif qui est correct, mais avec 250 millions d'euros de budget, quand tu vois les clubs au Portugal ou aux Pays-Bas, tu devrais être capable de faire autrement mieux. Et cette espèce de confort dans lequel t'es installé tant financièrement que vis-à-vis de tes supporters, c'est en train de faire que ton club devient un petit peu anonyme.
Juste pour terminer très rapidement, c'est que la qualité de l'effectif, moi je pense qu'il y a des joueurs de grande qualité dans cette équipe. Sauf que le problème, c'est que quand tu parles du budget, plus tu rajoutes à ça les 120 bâtons de Tchouaméni, si tu m'expliques qu'aujourd'hui, quand tu as un rendez-vous aussi important... 100. Oui, enfin 100, voilà. Ouais, 100,
on est plus à 20 près.
90 si vous voulez, 80, en tout cas 80. Allez, on y va sur 80. 80 bâtons, comment c'est possible de ne pas te renforcer sur les deux secteurs clés, défense centrale et milieu de terrain pour accompagner Fofana.
Alors,
on en a parlé un petit peu hier et c'est le problème que ne vit pas d'ailleurs que Monaco, mais c'est que souvent, et d'ailleurs Monaco c'était un petit peu le cas, ils attendaient de savoir s'ils allaient être qualifiés en Ligue des Champions pour savoir qu'ils allaient recruter, combien ils allaient investir.
Mais c'est ça le problème. C'est que après ils vont se retrouver comme l'année dernière avec le Shakhtar, où tu te dis il faut virer le coach très très rapidement parce qu'en fait notre objectif c'était d'aller en Ligue des Champions et il fallait valoriser nos joueurs. Oui, mais les copains, si vous faites pas le travail en amont, apprenez de vos erreurs.
On sait que cette troisième place elle est un peu maudite, hein, pour les clubs français.
Ouais, mais d'accord,
mais là je suis désolé, que vous avez raison, quand t'as le budget et l'argent qui vient de rentrer là, ta cible d'une priorité en milieu de terrain, ça peut pas être Franck Zambo Anguissa. il a fait une très bonne saison hein, en
encore,
Italie.
Moi, etc. Jean Bouanguissa, je le prends tous les jours à Monaco.
Ouais, mais Walid,
moi, je pense
pas,
du
tu perds.
Ou on parlait de Soumaré, de Leicester, je le prends tous les jours.
Tu perds Tchouaméni pour le remplacer par Zambo.
Bah, Zambo, c'est un très bon.
Alors, merci Adrien de nous avoir appelé au 32-16. Et tiens, dans quelques instants, on poursuit un débat un peu parallèle à celui-là d'ailleurs, qui va dans le sens également. Avec cette élimination de Monaco, finalement, c'est une élimination de plus d'un club français en tour préliminaire de Ligue des Champions. Sur les 7 dernières campagnes françaises en tour préliminaire de C1, il n'y a eu qu'un seul club français qui s'est qualifié, c'était Monaco d'ailleurs, en 2016-2017. Sinon, il y a eu plusieurs éliminations. On va vous donner le détail dans quelques instants. Comment vous expliquer ces échecs des clubs français? Est-ce que ça vous inquiète? On vous attend au 32-16. À tout de suite.
Gauche, droite, gauche, gauche.
Tu fais quoi là?
Écoute, je swipe sur l'appli Betson. Avec leur combi express, je passe en revue les matchs chauds et je valide mon pari. Et le bonus, si ça gagne pas, je récupère 10% en crédit. C'est simple, c'est juste, c'est Betson. Télécharge l'appli Betson et reçois jusqu'à 100€ de bonus de bienvenue.
Voir conditions sur le site. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.